l'existence du personnage. Et ça, c'était fascinant. Il fallait peu lui parler, peu lui expliquer le personnage, finalement. Et pendant le tournage, il était là. Et quand je dis il était là, il était dans le personnage. Il sortait du plateau et c'était un autre homme, tout à fait différent.
Radio G. www.radio-g.fr.
Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire suivante,
je voudrais choisir un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Auditeurs, bonjour. Après la publication de plusieurs ouvrages chez de petits éditeurs, les lecteurs français découvrent vraiment l'écrivain Sylvain Prudhomme en 2012 avec son roman « Là avait dit Bailly » qui obtient le prix Louis Guillou. Suivront « Les Grands » en 2014, « Légende » en 2016, puis « Par les routes » qui obtient le prix Femina en 2019, et dont nous allons vous faire découvrir quelques extraits. Son dernier ouvrage paru en 2021 est un recueil de nouvelles, Les Orages, toujours dans la collection L'Arbalète chez Gallimard. Après une enfance passée dans plusieurs pays d'Afrique, Sylvain Prudhomme, agrégé de lettres modernes, a été enseignant tout en se consacrant à l'écriture. Il collabore également à des revues et anime des ateliers d'écriture. Ce qui rend ses romans si attachants, en plus de son style sobre, précis et parfois poétique, c'est à la fois l'originalité des sujets, la forte présence des paysages et surtout l'attention portée à l'humain. Dans « Par les routes », il met en scène un personnage singulier et attachant que le narrateur, lui-même écrivain, nomme l'autostoppeur et avec lequel il a partagé le goût de la route et des voyages pendant leur vie d'étudiant. Pour la lecture qui suit, par souci de clarté et pour vous laisser le plaisir de la découverte, nous avons porté notre sélection sur la première partie du livre et essentiellement sur les deux personnages principaux. J'ai retrouvé l'autostoppeur il y a 6 ou 7 ans dans une petite ville du sud-est de la France après plus de 15 années pendant lesquelles, sans tout à fait l'oublier, l'autostoppeur n'est pas le genre d'homme qu'on oublie, j'avais du moins cessé de penser à lui aussi souvent que par le passé. Je l'appelle l'autostoppeur car c'est ainsi, affublé de ce surnom qui n'aura jamais existé que pour moi, dans mes adresses intérieures à lui, sans qu'il en sache rien, qu'il n'aura cessé de m'apparaître tout au long des années où je l'aurais côtoyé, tout au long de celles aussi où, éloignés l'un de l'autre, j'aurais pourtant continué de me le rappeler de loin en loin comme un repère. Les marins ont un mot que j'aime pour cela, dans lequel on peut entendre ce qu'il faut d'ambiguïté, même si eux n'y attachent rien d'inquiétant, un amer. Je venais d'emménager à V lorsque j'ai appris qu'il vivait là lui aussi. J'avais quitté Paris pour entamer une nouvelle vie. De toutes mes forces, je souhaitais changer d'air. Destruction, reconstruction, c'était mon programme pour les jours et peut-être les années à venir. J'allais avoir 40 ans. Depuis des années, j'écrivais des livres. À Paris, je travaillais chez moi. Je sortais, je rentrais travailler. J'allais aux choses, les choses venaient à moi. Je rencontrais des gens, certains me devenaient chers. Je tombais amoureux, je cessais de l'être. Je ne sais pas si la pente naturelle de la vie est d'être seul d'abord, indépendant, nomade, puis peu à peu de se lier davantage, de se fixer, de fonder une famille. Si c'est le cas, je régressais. J'avais eu envie de ce calme. Il m'avait semblé qu'à V, je saurais retrouver la concentration, la cèse qui depuis des années me manquait, la juste dose d'isolement qui me permettrait enfin de me ramasser, de me reprendre, peut-être de renaître.
Lors d'une fête organisée par son cousin, le narrateur rencontre Jeanne, avec qui il sympathise.
Nous avons vidé, puis à nouveau rempli nos verres. Elle m'a demandé sur quoi portait le livre que je projetais d'écrire. Et puis, que s'est-il passé dans sa tête? Qu'ai-je dit pour que cette pensée lui vienne? Oh, mais il y a quelqu'un à V qu'il faut te présenter. Quelqu'un avec qui tu es fait pour t'entendre, c'est sûr. Il est amusant, un peu fou, tu verras. Il aime les livres lui aussi. Il s'est installé à V il y a 4 ans peut-être. À quoi ai-je deviné que c'était lui? Est-ce ce qualificatif d'un peu fou? La mention de cette installation récente? J'ai senti le sang battre dans mes veines. « Il faut que vous vous rencontriez, vous allez faire la paire, c'est sûr !» a continué Jeanne. Et alors elle a dit son nom. Je suis restée le plus impassible que j'ai pu. Elle n'a rien vu, n'a pas deviné une seconde le trouble qu'elle jetait en moi. « Il faut que tu les rencontres tous les deux, sa compagne et lui. » Tous les trois, ils ont un petit garçon, ils sont super. Je n'ai rien dit. J'ai laissé descendre en moi ces nouvelles. L'autostoppeur, ici, tout près. L'autostoppeur en couple, père d'un enfant. Je l'ai appelé dès le lendemain matin. Au téléphone, il y a eu un blanc. Sacha. Je lui ai dit que j'étais là, que je venais de m'installer à V. Il a laissé passer un temps. Toi ici, c'est fou. Nous sommes restés sans rien dire, à attendre tous les deux. Nous ne nous étions plus vus, plus adressés un mot depuis près de 20 ans. Viens, il a dit simplement. Qu'est-ce que tu dis? Viens, tout de suite. Passe à la maison, pourquoi attendre? Sa voix n'avait pas changé. Malgré la surprise, il était calme. Viens, Marie et Augustine sont là. C'est dimanche, tu verras tout le monde. J'ai jeté un regard à mon ordinateur ouvert depuis la veille sur la table. J'ai pensé que je travaillerais plus tard.
J'ai descendu la rue. Je suis passée devant les boutiques fermées. J'ai reconnu au loin la vie matinale de la boulangerie, les allées et venues entre les baies coulissantes, le balai des clients, bras chargés de baguettes et de croissants. Je suis entrée dans l'air chaud et odorant. J'ai acheté une fougasse aux olives. Je suis arrivée devant la maison de l'autostoppeur. J'ai vu la petite rue plus que modeste, l'école maternelle en face, la porte d'entrée de la maison, en bois, doublée d'une grille peu engageante. J'ai sonné. La porte s'est ouverte. Une tête d'enfant a surgi. 8 ans peut-être, ou 9. Je n'ai jamais été très fort pour deviner l'âge des enfants. Cheveux noirs, yeux noirs, comme son père. J'ai voulu tirer la grille encore fermée. Nous sommes restés, le gamin et moi, à nous dévisager de chaque côté des barreaux métalliques. « Salut, toi !» « Salut. Tu t'appelles comment ? Augustine. Et toi ? Sacha. Le gosse s'est retourné, a appelé son père. J'ai vu la silhouette de l'autostoppeur approcher dans le couloir. Son visage me sourire. Il a montré la grille. On n'est toujours pas sorti ce matin, désolé. Il a fait 2 tours dans la serrure. J'ai eu le temps de le regarder, de bien voir son visage. Sa tête un peu vieillie seulement. Ses traits imperceptiblement creusés. Plus viril. Pommettes et arêtes de nez plus saillantes. Front plus large. L'air plus homme. Vêtu sans façon, comme il s'était toujours vêtu. Jean simple, pull à col boutonné, élégance sobre. Salut Sacha. Entre. Le gamin a grimpé à mi-hauteur de la grille, s'est amusé à la faire aller et venir sur ses gonds, de la porte au mur et aller-retour. Allez, Agustine, viens. L'enfant a fait comme s'il n'entendait pas. Allez, Agustine, viens maintenant. Cette fois, il est venu. Et l'autostoppeur a posé une main dans ses cheveux, en le regardant se faufiler entre nous pour retourner jouer dans le salon. Il a coulé de l'eau sous les ponts, hein? J'ai laissé mes yeux se promener au hasard des dessins punaisés au mur. Et toi, pas d'enfant? J'ai haussé les épaules avec un sourire. Pas d'enfant, pas de vrai amour depuis un moment. La loose. Il a ri. Viens, je vais te présenter Marie. Il m'a conduit jusqu'à la cuisine. Là, par les carreaux, j'ai vu le jardin. Les vieux murs en pierre, les deux cyprès. Le feuillage sombre d'un grand laurier. La boule de 2 grands rosiers blancs près de la fenêtre, ébouriffée par la pluie, pétales remplis de gouttes d'eau, feuilles brillantes. C'est beau, j'ai dit. C'était comme ça quand on est arrivé. La précédente locataire était folle de plantes. J'ai compris qu'il disait cela pour que j'entende ce mot, locataire, que je ne me méprenne pas. Il s'est avancé dans le jardin de quelques pas, a levé la tête vers la fenêtre au-dessus de nous. J'ai suivi son regard et vu Marie, assise au premier étage, à un petit bureau devant la fenêtre. « Marie, je te présente Sacha !» Marie a baissé l'écran de son ordinateur pour se pencher vers nous par la fenêtre. Elle m'a souri. « Salut Sacha! Faites-vous un café, j'arrive, j'ai presque fini. Un petit quart d'heure à peine. » Un café ou une balade, a proposé l'autostoppeur en regardant le ciel. Ça se lève, on dirait. Si on sortait se promener. Le gamin a mis ses chaussures, nous sommes sortis tous les trois. Tu te plais ici? J'ai demandé à l'autostoppeur, comme nous avions pris 10 mètres d'avance. Il a acquiescé en regardant devant lui. Dans l'ensemble, oui. Votre vie a l'air belle? Il a dit oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fois où on étouffe, où on voudrait changer et partir, comme tout le monde. Mais dans l'ensemble, on est bien. J'ai senti qu'il hésitait. J'ai lu ton dernier livre. Cela dit d'un ton enjoué, sincèrement ami. Mon sang s'est mis à battre, comme si j'attendais que ça batte un couperet. C'est beau, c'est très beau. J'ai adoré. J'ai respiré. Je l'ai remercié. J'ai attendu pour voir s'il allait continuer. Ajouter un bémol qui, en 3 mots, anéantirait la bienveillance de ce premier verdict. Le bémol n'est pas venu. Marie aussi l'a lu. On a tous tes romans, je crois bien. On les guette quand ils sortent. Je me demande chaque fois comment tu fais. Moi, écrire, j'y arrive pas. Me mettre devant une table, rester des heures à taper sur un ordinateur, sortir tout ça de moi. À l'époque, déjà, je me rappelle, je te regardais bosser pendant des heures sans te lever et je me disais, il est dingue. Je sentais que ça m'était inaccessible, que tout mon corps refusait ça. Je t'enviais. Il y a eu un silence. J'ai sorti de mon sac le manuel d'autostop. Tiens, je l'ai retrouvé sur une étagère en vidant mon appartement. Il a attrapé le livre, s'est mis à le feuilleter. Il a souri de tomber sur un passage où l'auteur comparait l'autostop à la pêche à la ligne. Même patience, même délicatesse dans le coup de poignet, même absence de brusquerie, même joie dans les prises. Il a lu à voix haute. Il existe des routes à Cadillac comme des rivières à brochets. Nous avons ri. Il a voulu me rendre le livre. J'ai repoussé sa main. Garde-le, c'est pour toi. Tu es sûr ? Souvenir des fois où on est partis ensemble. Il a remercié d'un hochement de tête. Je me demande si ça marcherait encore aujourd'hui, tous ces trajets en stop. Bien sûr, ça marcherait, il a dit avec aplomb. Et puis après un moment, ça marche toujours. J'ai regardé son visage pour comprendre ce qu'il voulait dire. Tu continues d'en faire ? J'ai demandé. De temps en temps, il a dit d'un ton calme. Pas quand on part tous les trois, évidemment. On a la voiture de Marie. Mais les fois où je m'en vais seule. Il s'est retourné, a vu Agustine une bonne centaine de mètres en retard, appeler avec ses mains en porte-voix. « Agustine !» Nous avons attendu que le gamin revienne dans notre sillage, voltant comme un moineau, s'arrêtant ici et là pour pêcher un caillou ou un escargot. Nous nous sommes remis en marche. J'ai attendu qu'il poursuive de lui-même, certain que la conversation n'en resterait pas là. Ça marche même mieux que jamais. Contrairement à ce qu'on pense, les conditions n'ont jamais été aussi bonnes. Véhicules plus nombreux, plus confortables, plus rapides. Disparition presque totale de la concurrence. J'ai examiné son visage. Souris d'y lire la même malice qu'autrefois. Le plus fou, c'est que même les conducteurs qui s'arrêtent pour me prendre en doutent. Je suis dans leur voiture et ils me demandent très sérieusement « Mais ça marche encore, le stop ?» Il s'est baissé pour ramasser une coquille d'escargot vide, a soufflé dedans, l'a mise dans sa poche. « Et tu vas où ?» j'ai demandé. « Quand tu pars, c'est pour aller où ?» Il a eu l'air d'hésiter. « En général, je fais l'aller-retour à Paris. Ou à Lille. À Brest. À Besançon. J'essaie de varier. Mais tu as des choses à faire là-bas à chaque fois ?» « Pas forcément, » il a dit en haussant les épaules. « Parfois oui, parfois non. Je prends l'autoroute et je vais d'air en air. Je dis la vérité aux automobilistes, qu'en réalité je me fiche un peu d'arriver où que ce soit. Que peu m'importe Paris ou Lille ou Brest, que je fais ça pour le plaisir. » « Pour le plaisir ? » « J'imagine que ça doit être ça, puisque j'y retourne, puisque régulièrement ça me reprend, l'envie de repartir. » J'ai essayé de me le représenter, autostoppeur de 40 ans, sur les routes, par goût, pouce tendu près des pompes à essence d'une aire d'autoroute de Champagne ou de Bourgogne. « Et quand tu leur dis ça, ils répondent quoi ?»« Il y a ceux que ça amuse, ceux qui pensent que je bluffe, ceux qui me prennent pour un doux dérangé, ceux qui se disent qu'ils ont affaire à un psychopathe. » J'ai ri. J'essaie de les rassurer. Je leur dis que je les trouve admirables de m'avoir pris. Que pour moi, c'est le critère suprême de l'hospitalité. Être capable d'ouvrir sa portière au parfait inconnu. Ne pas craindre de se retrouver soudain à 30 cm d'un étranger dont ils ignorent s'il sera agréable, s'il partagera leurs idées, s'il sentira bon, si la présence de ces 70 kilos assis là sur le siège passager, seulement séparés d'eux par la tige du frein à main, leur sera plaisante ou les importunera. Je leur dis que je veux rencontrer un maximum de gens comme eux, capables de ce geste-là.
J'ai revu Marie 3 jours plus tard. Je l'ai aperçue de loin, assise à une terrasse de la petite place aux platanes. Je me suis approchée, je l'ai embrassée, j'ai demandé des nouvelles de l'autostoppeur. « Il est parti », elle a dit. « Parti ? Le lendemain de ta venue. » Je ne sais pas quelle tête j'ai faite, quelle expression est passée sur mon visage, en tout cas elle a ri. « Pardon, pas parti comme tu crois, simplement reparti en voyage. » J'ai souri de ma méprise, demandé vers où ? Vers l'ouest, je crois, elle a dit doucement. Je l'ai regardée, assise dans l'air froid du matin, son regard formidablement enjoué, son visage à demi enfoui sous des cheveux fous, ses yeux mal réveillés encore. En tout cas, les retrouvailles avec toi lui ont fait de l'effet. D'habitude, ses absences duraient 3 jours, 4 maximum. Là, ça fait près de 2 semaines. Je me suis assis en face d'elle. Nous avons commandé 2 cafés supplémentaires. En rentrant ce jour-là, j'ai trouvé un paquet expédié d'Épernay. Le premier vrai courrier reçu à ma nouvelle adresse. Je l'ai tâté, j'ai essayé de deviner ce qu'il y avait dedans. Je l'ai ouvert. Ma dernière moisson d'auto-stoppée. J'ai lu sur un bout de papier joint aux images. J'ai vidé l'enveloppe sur mon bureau. 20aine de polaroïdes en sont tombées. Portraits en buste, sobres, simples, dépourvus d'effets inutiles. Avant tout, destinés à remplir l'office de tous les portraits du monde, garder une trace, empêcher l'oubli. J'ai compté les visages. 15aine d'hommes seuls, 4 couples, 3 femmes... J'ai essayé d'imaginer l'autostoppeur avec chacun d'eux, partageant l'intimité de leur habitacle. Je me suis demandé où il était à cet instant précis. Sur un panneau, j'ai aperçu les capitales noires du nom Chateaubriand. Sur un autre, j'ai lu la flèche. Ailleurs encore, j'ai reconnu des vaches normandes, la plage de Dinan, des toits d'ardoise du Morbihan, des forêts de feuillus roussis par l'automne. Il m'a semblé le voir posté en face de chacun de ces visages, entendre ces mots à l'instant d'appuyer sur le déclencheur. Sa façon de demander brusquement l'attention, de réclamer un sourire. Ou plutôt, sa façon de ne rien réclamer du tout, ni sourire ni attention. Au contraire, de provoquer l'un et l'autre, d'obtenir attention et sourire sans prévenir, à l'exact moment voulu, par quelle pitrerie, quel geste incongru. Quelle blague délibérément vulgaire, calibrée pile, pour les faire éclater de rire. J'ai regardé le visage d'une femme en polaire turquoise, la 50aine, mèche blonde, peau rougie par le froid d'une région montagneuse, bras un peu forts de chaque côté du volant. Le sourire d'un routier d'Europe de l'Est, pouce levé d'un air de dire « Dobro ». Super. Je les ai contemplés tous. J'ai pensé qu'autrefois j'aurais adoré être dans la voiture avec eux. Je me suis revue plein de cet élan, de cette soif. Et puis j'ai senti avec tristesse qu'elle était moindre à présent, que je la plaçais ailleurs. J'ai senti que je n'enviais plus l'autostoppeur, que si ces photos m'atteignaient, si elles me faisaient mal, ce n'était pas de le voir oser quelque chose que je n'osais plus, c'était de sentir son appétit intact. C'était de le voir continuer. Regarde, l'entendais-je me dire. Regarde comme c'est toujours là. Comme mon audace dure. Regarde comme rien n'a changé. Comme je suis toujours le même. Et toutes les années qui passent n'y feront jamais rien. Les jours suivants, nous avons passé du temps tous les quatre avec Marie et Agustine. Je les ai invités à dîner dans mon petit 2 pièces meublé. Ils ont découvert les murs nus, la peinture vert amande, le vieux canapé en velours marron. Marie a voulu voir l'étoile auquel j'avais travaillé ces dernières semaines. « Je m'attendais à plus de textes encore », elle a dit après les avoir longtemps regardés. « À une masse presque indistincte de caractère qui fasse que tout se mélange, tous les séjours, tous les voyages. » L'autostoppeur s'est mis à lire. A attrapé dans la masse de lettres un début de phrase ici, un autre là. Il a reconnu des noms de villes où il se rappelait que j'avais été. Certaines où nous étions même allés ensemble. Ulaanbaatar, Benares, Vientiane, Bobo-Dioulasso, Agadez, Chicoutimi. Quelques jours plus tard, ce sont eux qui m'ont invité. « Est-ce que je propose à Jeanne de venir aussi ?» m'a demandé Marie au téléphone. Jeanne est venue. Agustine est montée se coucher. Nous avons mangé. Nous sommes restés longtemps à parler tous les quatre. Jeanne s'est mise à questionner l'autostoppeur sur son dernier voyage, à le presser de questions sur ses voyages en général, avec une impudence comique, un culot que ni Marie ni moi n'aurions eu. « Es-tu de roue quand tu t'en vas comme ça? Les nuits, tu les passes où ?» Je trouve un Formule 1, une auberge, un relais routier. Je rencontre un automobiliste qui m'offre un toit. J'improvise. Parfois je bivouaque. Tu bivouaques ? Il a haussé les épaules. Une fois, j'ai passé la nuit dans mon duvet devant le volet roulant d'une station-service. Et toi, Marie, ça ne t'embête pas de ne pas savoir où il est? Tu ne t'inquiètes pas?
Bien sûr que si, je m'inquiète, a souri Marie.
Mais tu penses que tu cherches quoi? A demandé Jeanne en se tournant à nouveau vers l'autostoppeur. Je veux dire, quand tu fais ça, tu le fais pourquoi? Ça ne te rapporte pas d'argent? Ça t'éloigne de Marie et d'Agustine? Ça te prend plusieurs jours chaque fois. Tu rentres épuisé. Tu n'es pas reporter, pas écrivain, pas photographe. Tu ne veux pas faire un film, ni une expo, ni un roman. Enfin, pas que je sache. Tu le fais pourquoi alors?
Il m'a regardée comme pour m'appeler au secours.
Je ne sais pas.
Il a laissé passer un temps.
Sincèrement, je ne sais pas. Je le fais pour plein de choses, sans doute. Je le fais pour les rencontres, pour les moments avec moi-même, pour les endroits que ça me fait découvrir.
Jeanne a eu un sourire perplexe.
Pour les rencontres, ça me paraît dingue. Moi, j'en ai marre de rencontrer des gens. Je passe ma vie à en rencontrer. Mon rêve, ce serait déjà de réussir à voir ceux que j'aime, à les voir vraiment.
Il y a eu un temps, je me suis demandé si la soirée allait partir en vrille.
Il est resté calme.
Je rencontre des gens différents. Dans la même journée, je peux rencontrer un garde forestier, un patron de PME, un charcutier, un arpenteur.
Jeanne l'a regardé.
Mais ça suffit à te faire repartir chaque fois. C'est vraiment ça que tu te dis au moment de retourner te poser à la sortie de la ville avec ton panneau? Chouette, aujourd'hui, qui sait, je vais peut-être rencontrer un arpenteur et un charcutier.
Il a ri.
Marie et moi aussi. Tous nous avons respiré de voir l'atmosphère se détendre.
Jeanne a ouvert une nouvelle bouteille de vin, comme pour bien signifier que la discussion ne faisait que commencer.
Nous avons attendu, regardé l'autostoppeur hésiter, se demander que répondre.
« J'en ai besoin, » il a fini par dire.
« Je crois que c'est ça, tout simplement.
J'en ai besoin. Il y en a qui ont besoin de faire du sport, il y en a qui boivent, qui sortent faire la fête. Moi, j'ai besoin de partir. » C'est nécessaire à mon équilibre. Si je reste trop longtemps sans partir, j'étouffe.
Sa voix tremblait un peu. On sentait l'effort qu'il faisait pour formuler tout ça.
Ça t'arrive d'étouffer? Il a demandé à Jeanne.
D'avoir la sensation physique d'étouffer, je veux dire. De vraiment manquer d'air.
Le ton de sa voix était imperceptiblement monté. Jeanne a acquiescé.
Et je vois que c'est pire depuis que je garde des traces de gens que je rencontre. Je vois ma pile de photos qui augmente, ma liste d'adresses qui se rallonge, ça devient compulsif. J'ai toujours envie qu'il y en ait plus.
Il s'est levé, gêné de s'être tant confié.
Nous l'avons regardé se tenir debout près de la table, s'appuyer sur une jambe, puis sur l'autre, son verre à la main.
Attendez, je reviens, il a dit au bout de quelques secondes.
Il a disparu dans la pièce qui lui servait d'atelier, en est ressorti avec une carte routière, beaucoup plus abîmée encore que la mienne.
Il a poussé les verres et les assiettes vides, l'a déplié sur la table.
J'ai reconnu le maillage familier de National et d'Autoroute.
Je reporte tout ici, les noms, les adresses, les dates, les distances parcourues avec chacun.
On dirait un tableau de chasse, a soufflé Jeanne.
Il a souri de lui-même.
Ça m'arrive de songer à ça, moi aussi. Je pourrais regarder cette carte et me réjouir, penser tous ces gens rencontrés.
Mais quand je la vois, c'est le contraire qui arrive. Je vois toutes les régions laissées vierges. Je regarde le Cantal, toujours désert, et je me dis, prochain voyage, direction Salers. Je regarde les Hautes-Alpes, où je n'ai toujours pas mis le pied, et je me dis, cap sur gap.
Marie était demeurée silencieuse. Elle a resservi les verres.
Dans le livre que je traduis, il y a un homme comme toi qui part, elle a dit à l'autostoppeur. Il est beau, il aime la vie, il aime sa femme et son fils. C'est son travail qui le fait partir, il est magicien. Il faut bien qu'il s'en aille sur les routes faire son métier.
Sa femme le comprend.
Sa femme et son fils l'aiment.
Le type est sincèrement merveilleux. Il s'en va et ses retours sont chaque fois émouvants. Il rentre avec des cadeaux plein les bras. Il montre à son fils de nouveaux tours de magie. Il raconte les gens qu'il a vus. Il est heureux de revenir. Et puis, petit à petit, ses absences se rallongent. Il part de plus en plus souvent, de plus en plus loin.
Marie avait dit tout cela d'un ton paisible, en prenant son temps.
Elle a repris une gorgée et s'est arrêtée. Et à la fin ? J'ai demandé. À la fin, vous lirez, elle a répondu en souriant. J'allais vous raconter, mais je préfère ne rien dire.
Je reste en France. Réponse qu'il faisait à ceux qui lui demandaient où il allait. Je reste en France. Comme si cela devait les rassurer. Comme si la France était une pièce de croûte terrestre suffisamment familière pour qu'il n'ait pas à s'en faire. Je reste en France. Comme il aurait dit, je ne vais pas plus loin que le café du coin. Ne vous en faites pas. N'allez surtout pas penser que je fais un grand voyage. Pas du tout. Je reste là, je suis tout prêt. Certains se moquaient, lui reprochaient de ne rien visiter, de ne jamais s'arrêter nulle part. La France, mais qu'en vois-tu, raillait-il ? Qu'en comprends-tu, toi qui te contentes pour l'essentiel de la traverser à 130 à l'heure ? Toi qui ne quittes jamais l'autoroute ou seulement le temps d'un arrêt au Formule 1 le plus proche. Il ne se démontait pas. Arborait son plus grand sourire avant de laisser tomber sa réponse. Et alors ? Et alors ? Est-ce qu'après tout, la France, ce n'est pas ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, elle n'existe pas d'abord sous ce rapport ? Des forêts et des champs regardés par les vitres de nos voitures ou du TGV. Un bloc de vert et de brun, entrevu par-delà une rambarde d'autoroute, dont chacun de nous pouvait décrire, pour l'avoir longé mille fois, le renflement, le poli, les diaprures, les rivets. Il y a ceux qui se tiennent au bord du fleuve, il répétait. Et il y a ceux qui sont le fleuve. Il soutenait que c'était la petite ferme située de l'autre côté de la rambarde qui ratait la France. Certainement pas lui. Un matin, c'est moi qui l'ai dépanné. Il m'a demandé si je pouvais l'avancer, le déposer à l'entrée de l'autoroute. Je lui ai dit que j'allais faire mieux, le conduire jusqu'à l'aire de Lançon. Nous avons marché jusqu'à ma voiture. Il s'est assis à côté de moi. Nous sommes sortis de la ville, avons pris la quatre voies. Le paysage s'est mis à défiler. À 20 ans, nous avions souvent fait étape ensemble à Lançon, déposés sur la gigantesque aire pour en redécoller quelques minutes plus tard à peine, emportés tout droit vers Paris, où nous étions alors étudiants. Comme si rien n'était plus facile. Comme si partir de Lançon, avaler 800 bornes dans la journée, n'était qu'un jeu d'enfant, la chose la plus aisée du monde. Tu pars longtemps ? J'ai demandé. Je verrai. Je l'ai vu se tourner du côté de la vitre, contempler la plaine de l'autre côté de la rambarde. Marie en a marre que je parte. Elle dit que j'ai un problème, que ce n'est pas possible d'avoir tout le temps envie de m'en aller comme ça. Je lui ai demandé si je lui manquais. Elle m'a répondu non. Elle m'a regardé bien en face et elle m'a dit la vérité, que je lui manquais de moins en moins. Qu'elle était triste, mais pas de ce que je croyais, pas que je m'éloigne, pas que je sois absent, triste de s'y habituer, triste de sentir qu'elles ne lui font presque plus rien, mes absences. Elle me disait, je ne suis pas malheureuse quand tu t'en vas, et elle était malheureuse de me le dire. Ça ne me dérange plus que tu partes, elle me disait avec tristesse. Ça ne me dérange plus du tout que tu t'en ailles. Et elle éclatait presque en sanglots en me disant ça. Et moi, qu'est-ce que je fais ce matin ? Qu'est-ce que je fais l'exact lendemain du soir où elle me dit ça ? Comme un con, je m'en vais. Au lieu de me battre, je déserte. Une fois de plus, je pars. Est-ce que tu peux croire que je suis aussi con ? Je m'en vais, putain. Une fois de plus, je m'en vais. Quand il faudra évidemment rester. Devant nous, l'air de Lançon se signalait au loin. On arrive,
il a dit en riant de lui-même. Tu vois, d'habitude, c'est moi qui écoute les autres. Quand je te dis qu'il se passe toujours quelque chose dans ces fichues voitures. Je t'offre un café, viens. Et j'ai souri de l'entendre dire ces mots avec le même naturel que s'il m'invitait à la plus chaleureuse terrasse du centre-ville, me faisait l'offrande inespérée d'un verre dans le dernier lieu à la mode. Je lui ai demandé s'il ne fallait pas qu'il y aille, avec cette foutue nuit qui tombait à 17h. Il m'a regardé. T'es pressé que je parte ? Je dis ça pour toi. Si tu veux être en Normandie ce soir, il y a de la route. Il a souri. Je vais y aller, t'inquiète. Bonne route, allez, je te laisse. Avant de le quitter, j'ai sorti mon téléphone. Pour Marie, bouge pas. J'ai pris la photo, l'ai expédiée sans attendre. Je me suis encore retournée une ou deux fois en marchant vers ma voiture. J'ai vu l'autostoppeur faire le tour des fumeurs postés devant l'entrée, puis marcher vers les voitures garées aux pompes, son panneau brandi avec un sourire. Le temps de démarrer, je l'ai vu se pencher sur la vitre d'une vieille dame. Hocher de la tête d'un air de dire oui. « Ça m'arrange, oui. » Je l'ai regardé se dépêcher de faire le tour de la voiture, une petite polo noire immatriculée 95. Ouvrir la portière avant droite, se glisser à l'intérieur avec son sac sur les genoux, attraper sa ceinture pour l'accrocher en bandoulière. En roulant doucement, je suis passée tout près de la polo encore à l'arrêt. À travers la vitre fermée, j'ai vu l'autostoppeur me faire un sourire ravi, articuler pour moi sa destination. Paris. J'ai levé le pouce pour dire bravo, saluer la conductrice en amie. Regardez les lourdes boucles dorées à ses oreilles, son visage lifté, son col roulé rose, le genre de dame sur laquelle jamais, au grand jamais, je n'aurais parié un clou.
Que vous aurez envie de continuer la route aux côtés de l'autostoppeur, si généreux dans ses relations aux autres, proches ou inconnus. Le roman n'a pas fini de vous réserver des surprises, tout en questionnant nos choix de vie et la soif de liberté qui habite certains d'entre nous. Vous avez entendu les voix de Marie-Paul et Guylaine. Nous remercions Claude Michel pour le montage. Des extraits de On the Road Again, de Canotit, puis de Lavillier ont ponctué cette lecture. À bientôt.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.
Stay.